Selon vous, là, comment la surcharge affecte-t-elle, dans le fond, la qualité des services aux élèves, selon vous? Tu sais, là, Caroline.
Bien, la surcharge, elle touche tous nos corps d'emploi. On
Oui.
a 37 chez nous,
Oui.
administratifs, pédagogiques, services directs aux élèves. Puis, tu sais, il y a une chose qu'il faut, je crois, déconstruire un peu quand on parle du réseau de l'éducation. C'est comme on dit, bien, les services qui donnent le service à l'élève. Tu sais, vraiment, c'est comme si c'était le seul qui était important.
Oui.
Mais dans le fond, dans nos corps d'emploi, les services administratifs, les services pédagogiques, ils donnent des services aux élèves. Quand on construit une école, puis qu'on s'assure qu'il n'y a pas de plomb dans l'eau, puis il n'y a pas de moisissure dans les murs, ben c'est pas mal des services à l'élève là, de base. T'sais. Fait, cette surcharge-là est partout, puis ça fait qu'on a des trous de services partout. Donc, on va à la priorité de la priorité. Puis là, ben, ça fait que, comme tu l'as dit, Éric, il y a des situations où on pourrait intervenir rapidement, répondre aux besoins, éviter que ça s'aggrave. Et finalement, parce qu'on est obligé de toujours prioriser, parce qu'on est surchargé, ben on intervient trop tard. Et là, ça prend de l'ampleur, les besoins deviennent plus complexes. Donc, autant chez les élèves, où on se retrouve avec des élèves dont les situations se détériorent quand on est disponible pour intervenir finalement, autant au niveau de nos infrastructures, c'est le même constat. On laisse se détériorer, puis quand on intervient, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd. Puis autant au niveau du soutien qu'on peut offrir à nos collègues enseignants ou de soutien dans les équipes écoles, ben, on attend finalement qu'il n'y ait plus rien à faire. Fait que ça, c'est sûr que ça affecte la qualité des services aux élèves, parce qu'on est toujours au bout de ligne en train d'éteindre des feux.
Oui.
Puis ça, on sait que ce n'est pas gagnant. Ce qui est gagnant, tout le monde le sait, c'est quoi? C'est la prévention.
Tout à
C'est
fait.
la bonne personne au bon
Travailler en
moment,
amont. Oui.
travailler en amont, ensemble. Puis si on n'offre pas ça, ben on sait que c'est la qualité des services qui en pâtit.
Richard, de ton côté.
Bien, la surcharge, ça amène inévitablement des gens qui vont essayer de compenser. Parce que parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, les élèves, tout à l'heure, je vous le disais, quand vous n'êtes pas là, le personnel de soutien et les professionnels, bien, les élèves, leurs problèmes, ils ne disparaissent pas, hein.
Non,
Ils continuent à avoir des difficultés à
effectivement.
lire, mais continuent à avoir des difficultés à apprendre, des difficultés aussi avec les comportements, ce qui fait que toutes ces charges-là de travail tombent sur les épaules des enseignantes et des enseignants. Souvent, les enseignants sont capables de s'occuper de un, deux problèmes, mais quand on a 10, 12 élèves avec des plans d'intervention, parfois avec des modifications en classe, avec des problèmes qui sont majeurs, l'enseignante ou l'enseignant ne suffit plus à la tâche. Et à un moment donné, on n'est pas capable de donner du sens à notre travail parce qu'on n'est plus capable d'arriver à un niveau de service qui soit suffisant pour maintenir nos élèves. Vous savez, d'avoir un enfant de 8 ans qui a des difficultés à lire, on sait exactement c'est quoi sa difficulté, on sait exactement comment régler le problème, mais on n'est juste pas capable de prendre suffisamment de temps avec cet enfant-là pour être capable de le soutenir puis de l'amener à apprendre à lire. Parce qu'on sait que la lecture, hein, c'est un facteur là, qui va assurer la progression dans le parcours, dans son parcours scolaire. Alors, quand les enseignants se retrouvent dans cette situation-là, il y a de la souffrance professionnelle, il y a de la détresse psychologique et parfois, il y a des arrêts de travail et il y a des gens qui vont faire le choix de ne plus avoir à vivre cette souffrance-là et qui vont quitter.
Effectivement, puis, tu sais, vous avez résumé très bien. Parce que pour le personnel de soutien, tu sais, qui est là pour, oui, soutenir, mais travailler, tu sais, de façon précise, parfois dans des situations que, autant l'enseignant que les professionnels, dans le fond, souvent, ce que les gens nous disent, c'est qu'on a moins de disponibilité pour l'écoute. C'est là pour l'accompagnement, le suivi individualisé. Puis ça, là, c'est une problématique parce que c'est important le suivi individualisé pour l'enfant. Puis, trop souvent, des interventions qui sont écourtées, hein, ou souvent reportées. Donc, ce que ça fait, c'est que l'élève n'a pas le service. Donc, l'élève arrive dans une situation qui est plus ou moins bonne, dans un contexte plus ou moins bon, rentre en classe. Donc, ça crée une espèce de roue infernale. Malheureusement, ben, il y en a eu trop de ça. Il y en a encore trop de ça. Tu sais, des services spécialisés, pour moi, il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit constant. Il ne faut pas que ce soit irrégulier. Il ne faut pas que ce soit de temps en temps.
Ou éteindre des feux, comme disait Caroline.
Oui,
Il faut être
exactement.
là disponible à chaque jour.
Exactement. Exactement. Puis, je pense que. Tu sais, je veux dire, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tu l'as dit tantôt, la prévention est hyper importante. Il faut avoir le temps.
Exact.
Le c'est ce qui pendant manque. Et le suivi après, qui est important.
Ouais.
Donc, tu sais, je fais lien avec la pénurie tantôt. Tu sais, les changements précaires de personnel, à un moment donné, ça crée de l'instabilité aussi parce que les gens décident de faire d'autres choses parce qu'ils sont précaires, donc, etc., etc. Donc, beaucoup moins de soutien pour les élèves en difficulté. Puis grâce à ça, à besoin particulier, puis je pense que ça, c'est un incontournable, ça se doit de changer immédiatement. Parce que moi, je le dis toujours, puis on a 81 classes d'emploi chez nous, hein, quand même, puis c'est quand même beaucoup de gens. Et l'école, maintenant, elle est de 7 heures le matin à 18 heures le soir, tu sais, même les écoles secondaires. Donc, on a plusieurs corps d'emploi. On a même des enseignants qui font du parascolaire, puis on a des gens. Tu sais, là, l'école, là, c'est plus vrai qu'à 8h15, la cloche sonne, puis à 3h25, c'est terminé. C'est pas vrai.
Si on faisait ça, il y a bien des parents qui seraient dans le trouble. Hein?
Oui.
Les parents, ils ont besoin du 7h, 5-6h le soir.
C'est nécessaire. Exactement ça. La deuxième, l'autre partie que je voulais parler, le service direct aux élèves, la réussite éducative. Tu sais, on parle beaucoup, là, tu sais, de réussite scolaire. Mais souvent, peu de conditions nécessaires pour y arriver. Tu sais, on veut pas moins d'accompagnement, surtout pour les élèves les plus vulnérables. L'importance de l'égalité des chances, hein, pour tous. Je trouve ça malheureux de vous dire que j'ai l'impression qu'on est très loin de ça, de cette fameuse égalité-là. Et qu'est-ce qui manque actuellement dans nos écoles, Richard?
Bien, on s'est mis un idéal d'avoir l'équité, l'égalité des chances, d'amener les élèves qui ont le plus de difficultés ou ceux qui ont moins de stimuli à la maison, d'être capable de leur donner la meilleure chance possible de réussir, de s'épanouir, d'être de bons citoyens dans notre société. On s'est dit, il y a longtemps, que l'école devait donner ça aux enfants du Québec. On a depuis coupé très souvent dans notre système. Puis des fois, les gens se demandent qu'est-ce que ça va donner les coupes qu'on fait aujourd'hui? Bien, il faut arrêter de se la poser la question. On a fait ce choix-là au début des années 2000 de ne pas suffisamment financer notre système d'éducation et regarder ce que nos édifices ont l'air présentement. Comment c'est difficile. Pendant plusieurs années, on a dit les équipes écoles tiennent l'école à bout de bras. Ça a été un slogan qu'on a pris pendant une négociation, mais ça a tellement donné un effet de vérité dans nos milieux. Les gens y croyaient. Gens soutenaient l'école. Maintenant, avec la pénurie, avec encore les coupes qu'on a vues l'année passée, parce que les coupes qu'on a vues en juin passé, là, on l'a vu chez vos collègues, là, particulièrement au niveau du personnel de soutien, mais je pense qu'on l'a vu aussi au niveau des professionnels, des gens qui ont fait le choix de dire, bien, si on ne m'offre pas d'emploi, il faut que je paye mon loyer pour aussi. Alors, je vais quitter, je vais aller trouver un emploi ailleurs. Et ça crée de la désertion. Cette année, on sait que la pénurie, elle est plus importante que par les années passées. Même si le gouvernement essaie de nous faire croire le contraire, on le voit, il y a eu moins de postes enseignants qui ont été offerts cette année que l'année passée et que l'année d'avant. Alors, et il y a plus d'élèves dans notre système scolaire.
Oui.
Donc, il y a du service en moins à nos élèves présentement. Donc, on est loin du compte pour offrir des services de grande qualité puis d'amener les élèves, leur donner la même chance à tout le monde de réussir puis de se développer. Alors, je pense qu'on a un grand bout de chemin à faire avec notre système d'éducation.
Et j'ai envie de te dire que nous aussi, au niveau des TES, beaucoup moins de TES qui ont été engagés dans le réseau quand l'augmentation des élèves, des besoins, l'augmentation des élèves EHDA, donc c'est clair. Là, je veux dire, les statistiques sont là, mais j'ai comme l'impression que parfois, le gouvernement, c'est les seuls à pas regarder les bonnes statistiques. Là. Donc, ça, c'est
ils donnent les statistiques qu'ils ont le goût de nous donner.
Exactement.
Qu'est-ce qui manque?
Clairement, il manque de pros. Ça, je peux dire sans l'ombre d'un doute. D'ailleurs, on consulte le tableau de bord du ministère de l'Éducation lui-même, puis notre taux de postes non comblés n'a à peu près pas bougé depuis le début de l'année scolaire après les coupes. Puis il n'a pas bougé, mais il y a moins de postes. Donc, la situation s'est détériorée dans nos milieux. C'est ce que ça veut dire. Encore aujourd'hui, on est rendu au mois de janvier. Les dernières données qu'on a, c'est il manque 7,1% de postes comblés. Puis quand on va voir aussi vraiment dans les données du ministère qui nous fournissent, là, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation du nombre de pros dans les écoles au début du gouvernement de la CAQ en 2018-2019. Là, on avait augmenté, puis on commençait à avoir un petit souffle là, de l'effet bénéfique dans les milieux, de meilleure prise en charge des élèves, etc. Puis là, on se rend compte que les statistiques à partir de 2022-2023, on est dans une diminution de nos professionnels. Quand on a moins 110 postes de psychoéducation, par exemple, ben, c'est pas magique. Ça va avoir un impact, ce manque de personnel-là. Quand on parle de moins 72 psychologues, depuis 10 ans, on est à moins une centaine. Alors même, comme tu le dis, Éric, que les besoins augmentent, que le nombre d'élèves augmente, que les besoins sont plus complexes. Nos enfants, ils méritent mieux que ça.
Oui.
Puis tu t'en as parlé, Richard, on a décidé collectivement, il y a plusieurs années, de faire de l'éducation au Québec un moteur de changement, un moteur d'égalité des chances. Bien là, on en laisse derrière.
Oui.
Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile. Ce que ça nous prend, à part des pros, du personnel de soutien, des enseignants, ce que ça nous prend, c'est une vision claire en éducation, une réelle ambition pour notre milieu scolaire.
Je vais même dire un courage politique.
Là. Un courage politique.
Puis, si tu me permets, je rajoute deux éléments. Tu me dis on manque de psychologues, puis il y en a plusieurs qui font le choix d'aller au privé. Les enseignants, on a des ratios, donc on doit avoir un adulte par classe.
Oui.
Mais on manque de profs aussi, de gens qui sont légalement qualifiés, qui ont la formation complète. Ouais. Évidemment, on a besoin des gens qui n'ont pas toute la formation parce que sinon, on n'aurait pas. Il nous manquerait un adulte dans la classe. On a des gens qui ont des formations en histoire, qui vont venir compléter la formation. On a besoin de ces gens-là. Mais on aurait besoin aussi d'avoir plus de jeunes qui rentrent dans les facultés d'éducation à l'université pour venir compléter, pour venir combler le besoin qui est créé par des gens qui quittent la profession. Alors, c'est important aussi d'aller chercher ces jeunes-là et les amener dans la profession. Puis au Québec, il y a une chercheuse qui a évalué qu'il y avait 17 000 personnes qui ont un brevet d'enseignement, qui sont en âge d'enseigner et qui font autre chose. Alors, pour se poser la question, pourquoi ces gens-là sont
jeunes?
Oui, tout à fait.
Ils ne sont pas dans le réseau, là, présentement.
Ces 17 000-là là, viendraient combler le besoin qu'on a.
C'est tout à l'honneur des personnes qui viennent donner un coup de main, qui se disent, bien, moi, je vais faire ça dans la vie. Je vais aller enseigner, puis je veux l'essayer, puis je veux contribuer. Mais ça leur prend du soutien. Il faut que ça soit reconnu comme étant aussi toute une équipe à mettre en place directement dans les écoles pour offrir le soutien à ces enseignants-là aussi, puis qu'ils soient réellement capables tous ensemble de faire la différence pour l'élève.
Oui.
Mais là, quand on. À force de prioriser, c'est la même chose avec les élèves, mais c'est la même chose avec nos budgets puis nos corps d'emploi. Bien, on priorise, puis à un moment donné, bien, on n'a plus la bonne personne au bon moment. C'est ça qui se passe.
On le dit toujours que l'équipe école est une force. L'équipe école, quand elle est complète, quand l'équipe école, il y a assez de personnel, autant professionnel, enseignant que soutien, pour former une équipe qui est solide. Puis je recevais dans un Facebook Live auparavant, Francis Côté et André Bernier, des directions d'établissement, puis ils le disaient très clairement que pour eux, c'est indéniable, il faut une équipe école forte, puis composée de tous ces gens-là. Et quand je dis tous ces gens-là, de notre concierge aux professionnels, à la direction, tous ces gens-là qui font que l'école avance.
Ouais.
Et présentement, c'est l'écoute qu'on n'a pas nécessairement. Tu sais, je ne veux juste pas oublier non plus les fameuses recommandations du protecteur du citoyen, quand même, qui est venu, qui visait à corriger les problématiques, les élèves HDA, qui n'ont pas de service, ça c'est clair. Et souvent, les remplaçants, les remplaçantes qui ne sont pas formés.
Ouais.
Ça aussi, c'est une problématique. Puis plus souvent qu'autrement, il n'y a pas personne pour remplacer.
Ouais,
donc, tu sais, là, c'est vraiment...
On parlait tout à l'heure de soutien aux gens qui arrivent dans la profession, que ce soit des professionnels, du personnel de soutien, des enseignants. On a eu une bonne nouvelle, nous, aujourd'hui, d'avoir réussi à aller chercher un montant d'argent, 11 millions de dollars, pour justement soutenir l'insertion professionnelle. Mais cet argent-là doit servir à soutenir les jeunes, à soutenir ceux qui arrivent en milieu de carrière, Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut que ces gens-là, quand ils arrivent dans la profession, il faut qu'on les soutienne oui. pour qu'ils puissent continuer. Parce qu'on met bien de l'argent pour ramener les retraités dans la profession, mais ces gens-là vont venir donner un coup de main 2-3 ans. Mm-hmm. Les ouais. jeunes qui arrivent, eux autres, là, si on prend le temps de les soutenir correctement et de s'assurer qu'ils ont le goût de continuer, bien, on va les avoir pour longtemps. Parce qu'on a quand même 25 % des jeunes qui arrivent dans la profession qui quittent dans les 5 premières années.
Oui,
pensez-y, là. Ils ont fait 4 ans d'université, puis ils quittent dans les 5 premières années. C'est un enjeu important. Oui. On devrait travailler plus fort pour l'insertion professionnelle. Je parle des enseignants, mais je sais que vos collègues aussi auraient oui. besoin d'avoir un soutien quand ils arrivent dans les milieux, puis même l'offrir, parce que vous autres, vous avez des conseillers pédagogiques qui peuvent soutenir oui. mes collègues oui. quand ils arrivent dans les milieux.
Bien, malheureusement, quand on arrive avec des choix budgétaires comme ils ont été faits,
oui.
bien, les premiers à passer au tordeur, c'est justement nos conseillers pédagogiques,
oui.
Puis nos services administratifs, parce qu'ils n'offrent pas de service à l'élève.
Oui.
C'est ça, bien, oui. c'est ça le discours. Mais une conseillère pédagogique qui va soutenir plusieurs équipes écoles, qui va soutenir plusieurs enseignants tout au long de l'année. Dans le fond, l'effet réel sur les élèves, c'est multiplié là, par 100.
Quand on dit que tu n'as pas des services aux élèves, là, on est premier niveau. Là.
Oui.
Hein? On ne réfléchit pas loin, on ne prend pas de profondeur dans l'interaction. Là, parce que d'avoir des systèmes de ventilation qui fonctionnent, oui, d'avoir une bonne température dans la classe, d'avoir
saine et sécuritaire,
saine sécuritaire
adéquate,
d'avoir une secrétaire qui répond au téléphone oui, à l'entrée, qui accueille les gens,
ben,
ça
c'est
fait partie du travail qu'on a besoin de réaliser dans les écoles et ça offre un service aux élèves, aux parents et à la population.
C'est effectivement. Puis, tu sais, je prenais un exemple, je faisais une visite du côté de Robertval, puis on me dit qu'avec les coupes qu'il y a eu au niveau des services administratifs, c'est tellement long entre le temps où la secrétaire d'école prend le téléphone et appelle les services éducatifs pour un différent besoin, parce qu'un parent est venu et il y a eu une discussion avec la direction. Ce qui prenait une journée, 2 jours avant, maintenant on parle de 3 à 7 jours. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le parent revient à l'école et dit, « Bien, coudonc, je n'ai pas de nouvelles de vous autres. Ben, j'en ai pas à te donner parce que, c'est malheureusement, ça. J'attrape un répondeur. » Ce n'est pas la faute des gens qui sont au centre administratif.
Il n'y en a plus.
Donc, à un moment donné, là... Tantôt, on en parlait, tu sais, le temps de prévention, le suivi, la collaboration entre les équipes. On n'a plus ce temps-là. Mm-hmm. Puis, selon moi, là, c'est quelque chose qui est essentiel pour voir venir la situation.
Oui.
C'est, même nous, on a proposé à un moment donné d'avoir des gens qui sont capables de travailler avec les milieux communautaires, avec nos collègues professionnels, pour pouvoir être en amont d'aider les parents qui vivent certaines difficultés. Mais on travaille en silo au Québec. Hein? Pourtant, c'est des solutions qui sont claires, nettes et précises.
Tout à l'heure, on a parlé de souffrance professionnelle. Hein?
Oui.
Ben, un enseignant ou un personnel de soutien ou un professionnel qui se retrouve tout seul avec son problème, là, ben, ça peut créer de la souffrance professionnelle parce qu'il y a de la difficulté à s'en sortir. Quand tu as une équipe autour qui te soutient, quand tu vis quelque chose de difficile dans une école un jour, puis Dieu sait qu'on en vit entre autres les situations de violence qu'on peut vivre tous les jours. Mais quand on vit ces situations-là, quand on a des collègues qui viennent nous soutenir, nous donner un coup de main, nous proposer des solutions, ça améliore l'expérience qu'on fait dans notre vie professionnelle. Il y a plus de chances qu'on y reste.
Qu'on y reste, effectivement. Tu sais, dans le service aux élèves, la réussite éducative, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir l'éducation, c'est comme où chaque membre joue un rôle essentiel et complémentaire. Même vous voyez ça, l'importance de ça.
Non. Le système d'éducation, nos écoles, nos centres de services scolaires, c'est des environnements qui sont complexes.
Oui.
Puis des fois, quand on ne prend pas le temps de réfléchir ensemble, puis qu'on regarde juste le problème, qu'on le voit d'un côté politique, là, souvent, d'essayer de trouver des solutions simples à des problèmes complexes.
Oui.
C'est rare que ça fonctionne,
vraiment.
Donc, d'avoir le temps de s'asseoir ensemble, d'avoir le temps de concertation pour travailler, pour s'épauler, pour comprendre réellement les problèmes, de trouver les meilleures solutions adaptées à nos milieux, c'est ce qui est payant. C'est pour ça que, nous, du côté des professionnels, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs services, c'est ceux qui sont prêts des élèves. Parce que, on peut aller au privé, aller chercher une évaluation par un professionnel à l'externe, mais en bout de ligne, le suivi, de cette évaluation-là. On a, bon, on a le profil de l'élève, mais qu'est-ce qu'on met en place? L'évaluation de ces moyens-là, ça fonctionne pas, le soutien aux collègues, compréhension commune qui s'établit entre nous pour soutenir ces élèves-là qui ont des difficultés. C'est ça la réelle plus-value de travailler ensemble, le temps de concertation. Puis je vous dirais même que pour les professionnels, le travail multidisciplinaire qui est possible en milieu scolaire, puis la proximité avec les élèves, c'est probablement le seul argument de vente qui nous reste en éducation pour dire venez travailler avec nous. C'est un gros avantage du scolaire, c'est ce travail-là en équipe avec nos collègues de d'autres catégories d'emploi, avec d'autres professionnels, avec les parents, avec les élèves eux-mêmes en proximité.
C'est
la grande différence. C'est seul argument de vente. C'est important de prendre le temps de le faire.
Les vieux sages disent que ça prend un village pour élever un enfant. Ben ça ne prend pas juste un forgeron, ça ne prend pas juste un comptable, ça ne prend pas juste un maire, ça prend tout ce monde-là pour être capable d'élever un enfant. Ben dans nos écoles, c'est le même principe. On a une classe, on place les enseignants et les enseignants dans un contexte collectif. On a un groupe devant nous autres, un groupe d'élèves. On leur demande de donner des services personnalisés. Donc, on enseigne, on leur fait faire des activités. On essaie d'être le plus personnalisé dans notre intervention auprès des élèves, mais il y a une limite. Et où est-ce qu'on vient combler ces besoins-là, là où on a des difficultés à aller chercher tous les élèves? Bien, c'est le personnel de soutien qui va venir le donner. C'est les professionnels qui vont venir donner cet ajout-là de service pour que l'élève qui vit des difficultés, que ce soit comportemental, que ce soit au niveau de l'apprentissage ou de certains apprentissages, parce que les élèves, quand ils ont des difficultés d'apprentissage, ils n'ont pas des difficultés dans tout, bien, c'est ces besoins-là qui viennent être comblés par le personnel de soutien et les professionnels qui viennent nous donner un coup de main. Ce qui est intéressant d'être dans la même centrale, c'est que ce que nos collègues vivent dans leurs écoles, nous autres, on le vit ici. On est capable d'échanger sur nos réalités professionnelles puis être capable d'essayer de régler et de donner un coup de main à nos collègues pour régler les difficultés qu'ils vivent dans les milieux puis s'assurer que l'on comprend bien les enjeux. On l'a bien vécu avec le projet des aides à la classe. Comment on a travaillé de temps là-dessus pendant plusieurs années avec des projets pilotes. On a construit un projet avec le ministère de l'Éducation qui a décidé de travailler avec nous autres et on est arrivé à faire quelque chose. La dernière négociation, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste finalisé ce dossier-là des aides à la classe.
Tu sais, Richard, là, quand tu dis « on a travaillé avec le ministère », c'est l'expertise de la CSQ qui est reconnue, clairement. L'expertise en éducation. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, oui, il y a d'autres gens qui représentent des enseignants, mais pour nous, à la CSQ, la force, je l'ai dit d'entrée de jeu, la force d'un réseau scolaire qui est fort, qui se parle, on bâtit des projets et on fait avancer. Et même parfois, je vais dire, on met de la pression sur le ministère parce qu'ils trouvent nos projets excellents donc, aussi. Donc, on continue à travailler sur ça. Puis, vous savez, nous, pour le personnel aussi, on dit toujours, bien, parce que la réussite repose clairement sur une équipe complète. Ça, là, c'est indéniable. J'ai hâte qu'un courageux politicien, ministre de l'Éducation, va prendre ça en considération et qu'il va être capable de dire l'importance de tout ça. Le travail du personnel de soutien, des enseignants et des professionnels, il faut que ça soit ensemble.
Un courageux ou une courageuse?
Un courageux ou une courageuse, excuse-moi.
On serait d'accord avec une courageuse qui prendrait en considération.
Oui, effectivement. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. Je veux dire... l'approche globale aussi, tu sais, quand on est plusieurs à répondre aux besoins de l'élève, tu sais, là, parce qu'il y a différentes sortes de besoins, tu sais, besoins éducatifs, besoins sociaux, besoins comportementaux, émotionnels, tout est lié, tu sais, dans le fond. Puis, malheureusement, bien, la vision en silo de l'éducation, bien, on a l'impression que, tu sais, ça affecte directement l'efficacité des interventions. Donc, en espérant qu'un jour, quelqu'un comprendra, qu'une personne ou que quelqu'un comprendra, bien entendu, tu sais, parce que le partage d'informations pour nous autres, le personnel de soutien, il est important. Mais il est important pour vous aussi. Se doit d'échanger ça pour faire avancer, l'élève, l'étudiant, le jeune adulte, peu importe où il est dans la sphère.
T'sais. Et quand on parle de partage d'informations, là, on parle du service de garde, oui. on parle des en classe, oui. à la pause, pendant la récréation, sur l'heure du midi, quand ça ne va pas bien dans le cours d'école,
Exactement.
Etc. Dans toutes ces situations-là, il faut que et les enseignantes et les enseignants, et le personnel de soutien, oui. et les professionnels aient du temps reconnu pour cette concertation-là. Puis malheureusement, ce ne l'est pas suffisamment, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps de se parler pour essayer de se comprendre. Premièrement, de se comprendre,
oui.
puis de régler les problèmes.
Effectivement.
Puis quand on fait ça là, sur le coin d'une table à Sauvette, ça arrive souvent qu'il y a des incompréhensions. Puis des fois, les petites chicanes qui arrivent dans les milieux, bien, ils viennent de ça.
Oui.
Là, que les gens n'ont pas eu le temps de se parler
oui.
pour bien comprendre l'enjeu, puis ensuite d'être capable de le régler chacun dans sa sphère d'influence.
Puis moi, ce que je trouve particulier, c'est que, tu sais, quand les deux représentants des directions d'établissement l'ont dit clairement, ça.
Mm-hmm.
Et de plus en plus, on travaille beaucoup en collaboration avec les directions d'établissement. Tu sais, dans notre mm-hmm. travail, on entretient des relations. Et ouais. au-delà de ça, on essaye de toujours pousser ça plus loin. Et il y a une logique derrière tout ça qui devrait être naturelle.
Mais ils t'ont-tu parlé des buts de neige, Éric?
Richard, tu ne veux pas me partir ces buts okay. de neige, là? Mais écoute. C'est là le besoin fondamental de l'enfant, la
oui,
de
oui,
neige.
Oui, oui, oui.
Je veux dire, là, tu sais, là, dès ton plus jeune âge, tu vois une montagne de neige, tu as le goût de monter. Tu sais, c'est comme un classique. Mais oui, on pourrait se parler des buts de neige, mais ça sera un prochain.
Un prochain, ouais. OK, c'est bon. Okay.
Donc, financement et les choix budgétaires. Mm-hmm. Hein, on le sait, malheureusement, le financement et les choix budgétaires ne sont pas faits par nous.
Non.
Et ce serait tellement plus facile.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, écoute, on réglerait. On réglerait. Oui. Mais tu sais, avec les compressions budgétaires, le gouvernement a réduit le service direct aux élèves, mais ouais. il a réduit aussi le service administratif, tu sais, là, je veux dire, avec les jets d'embauche, etc., etc. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ce que ça fait, les ressources sont insuffisantes pour répondre aux besoins réels du terrain, peu importe ce que tu fais. Les décisions financières, ça nuit, oui, au service direct aux élèves, mais aussi à la population, parce qu'on offre des services à la population. La compression, faut pas oublier ça, la compression dans les infrastructures.
C'est
les budgets. Écoute, 100 millions, là, on est passé de 500 à 100 millions. On a des beaux exemples. Là. Je pense au Saguenay où, à un moment donné, le personnel de soutien professionnel avait reconstruit une école de l'intérieur. Ça, il avait sauvé comme 330 000 $ mm-hmm. sur la construction parce que c'était des gens du soutien, des professionnels, avec des enseignants qui avaient travaillé dans le giron de comment voir la classe, comment aménager tout ça. Mais bon, c'est arrivé une fois. On l'a cité plusieurs fois dans des rencontres avec le ministère ouais. pour leur dire, mais on
c'est pas assez spectaculaire du monde de l'intérieur exactement, qui font les choses.
Exactement. Donc, la question, choix budgétaire devrait être revu en priorité pour soutenir adéquatement nos écoles et nos centres, selon vous, Caroline?
Ah, c'est dur d'être dans la priorité des priorités.
Oui,
là,
oui.
T'en as parlé, Éric, les infrastructures. Moi, j'ai l'impression qu'il faut y voir rapidement.
Oui.
Mm-hmm. D'asseoir nos enfants dans des écoles qui sont délabrées, qui ne sont pas sécuritaires. Moi, des fois, je me demande, c'est quelle image on envoie à ces enfants-là mm-hmm. de leurs valeurs? Mm-hmm. On donne quoi comme message de à quel point l'éducation, c'est important pour nous si on laisse aller à ce point-là c'est nos ça. Écoles, tu sais, puis qu'on construit quelques nouvelles écoles là, oui, d'envergure, oui, tape à l'œil, oui. puis pas vraiment bien adaptées pour nos besoins, puis non, les besoins non, des non, élèves, puis le personnel. Là,
tu parles des lab-écoles, les fameuses écoles.
Tu sais, les écoles sont bien belles, mais elles sont oui. immenses, puis on n'a pas assez de surveillants pour, pour couvrir tout... cette superficie-là, pardon.
Ou on les construit trop petits.
Fait, oui.
Puis qu'on se ramasse que les 4e, 5e, 6e année vont aller dans un ou dans des on appelle ça des contenants. Je ne dis pas des contenants, mais tu comprends, des rangs. Je ne veux pas dire des contenants, mais des contenants. Ouais, on rajoute des bouts d'école.
On construit en se disant, c'est ou bien l'orthopédagogue
oui.
ou bien le spécialiste qui va avoir une classe.
Oui.
Mais pas les deux.
Non,
comme si dans les écoles primaires, il n'y avait pas des spécialistes puis des orthopédagogues.
Effectivement.
On va donner le choix au centre de service, ce qui n'a pas de bon sens.
Mm-hmm.
Non, les choix budgétaires, il y en a tout un lot de choix budgétaires qui ont été mal faits. Premièrement, on ne suit même pas les coûts de système actuellement. Donc, il faut savoir qu'on a des coupes en éducation de façon importante. Le calcul après l'injection du 540 millions, là, on arrive autour de 322 millions qui manquent actuellement dans le système cette année. Pas l'année prochaine, cette année. On nous parle de, d'autres coupures qui s'en viennent. Alors, la première étape, là, c'est d'arrêter de couper, de s'assurer que l'on réinjecte l'argent pour suivre les coûts de système dans le système d'éducation. Oui. Minimalement, là, pas baisser le niveau de service qu'on a actuellement. Puis même, il faudrait prendre la base de calcul de l'année passée parce que déjà cette année, il y a un problème.
Oui.
Mais ce qui me réconforte un peu quand même, malgré toutes les coupes qu'on entend, c'est que quand on sonde la population, les Québécoises et les Québécois, 88 % nous disent que même quand il y a des difficultés financières au niveau du gouvernement, on devrait s'assurer de protéger le financement de l'éducation. Parce qu'un enfant qui a des difficultés de lecture cette année, là, il ne peut pas attendre 3 ans que l'économie se replace. Si on attend 3 ans, ça se peut qu'on soit rendu trop tard. S'il y a des difficultés de lecture cette année, il faut l'aider maintenant. Et il faut donc que le professionnel, que le personnel de soutien, que les enseignants qualifiés soient présents près de lui pour l'aider. Puis ça, bien, si on veut avoir ça, il faut faire des choix maintenant. Parce qu'on le sait, là, on est en janvier, le budget, il va sortir en mars.
Et c'est
présentement que le ministre de des Finances est en train de prendre des décisions sur comment il va financer l'éducation l'année prochaine. Et c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Il faut que ce gouvernement-là, même s'il est en fin de mandat, qui laisse un legs intéressant au niveau de l'éducation. Parce qu'on parle souvent du déficit financier, mais on parle rarement du déficit social qu'on a dans notre société.
Exactement.
Quand on a un déficit en éducation, c'est un déficit social. Ces enfants-là qui n'auront pas eu tous les services auxquels ils auraient droit ou qu'ils devraient avoir pour, tout à l'heure, on a parlé d'équité, d'égalité des chances, de s'épanouir dans la société, de devenir des citoyens, de devenir des travailleurs qui sont productifs pour la société. Bien, pour ça, ça prend un système d'éducation fort. Puis peut-être qu'on va avoir à couper dans d'autres sphères du gouvernement, mais si on soutient le système d'éducation, on va avoir une population qui va être plus en santé, ça va coûter moins cher de santé, ça va être des gens qui vont être plus productifs, ça va être des citoyens qui vont être plus épanouis. C'est important de maintenir le financement dans toutes les sphères. Alors, à ta question, Éric, lequel des dossiers est le plus important au niveau du financement? Je vous dirais le système d'éducation.
Le système au complet, puis dans le fond, effectivement, puis... on va se rappeler qu'il y a quand même eu une pétition de 161 000 noms. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont rempli chacun le tour pour dire non, c'est assez. On n'en veut plus de coupe. On veut une éducation égalitaire pour tout le monde. On veut des services. On veut ci, on veut ça. On espère que celui qui travaille sur le prochain budget va se rappeler quand même que 161 000 personnes, c'est pas rien, qui ont dit à un moment donné, il faut que ça cesse. L'autre bout, moi, je dis toujours, tant et aussi longtemps qu'on va régler l'éducation en argent et non pas en besoin humain, mais on commence toujours à faire virer la roue dans le mauvais sens. Parce que pour nous, c'est le besoin humain qui se doit d'être priorisé, tu sais. Et nous, pour le personnel de soutien, ce qu'on dit, bien, c'est du financement suffisant là, pour éviter tout ce qu'on a dit, là. Tu sais, là, pour combler les postes vacants, attirer des gens, attirer du monde dans la profession. Les trois groupes qu'on représente, c'est une obligation. Puis, je vais même aller plus loin. Pour nous, l'important, ce serait d'embaucher même du personnel additionnel. Additionnel où on peut aller plus loin. Tu sais, où on peut pousser plus loin le service qu'on a à offrir. Pas d'avoir l'impression qu'on se bat. Tu sais, le parent, je donne un exemple, un TES part pour des raisons de santé. On n'est pas capable de le remplacer, mais on le remplace par la moitié d'un autre, puis le corps d'un autre. Donc, ça met des gens essoufflés, là, carrément.
C'est d'investir suffisamment en éducation pour que notre réseau soit réellement résilient.
Oui, exactement.
C'est ça qu'on a besoin à tous les niveaux. Fait que oui, ça va prendre du courage, mais ça va prendre de l'écoute aussi.
Oui,
tout à fait. Ah, je suis content que tu le dises. Parce que ça, c'est un élément qu'on ne ressent pas du gouvernement qu'on a actuellement. Puis remarque que la nouvelle ministre de l'Éducation a un peu plus d'écoute que son prédécesseur, mais
ça en prend plus encore.
Ce gouvernement-là veut nous démontrer qu'il sait diriger, mais ce qu'il a démontré, c'est qu'il ne sait pas écouter.
Exactement.
Avec tous les projets de loi qu'il a lancés, avec la façon dont il a pris des décisions dans les dernières années au Québec, c'est clair, quand on regarde le code d'éthique, un code d'éthique qui s'applique à tout le personnel scolaire, mais il n'a même pas pris la peine de nous poser la question qu'est-ce qu'on en pensait avant de le décréter. ils l'ont décrété, ils nous l'ont imposé. Plusieurs éléments dans ce code d'éthique-là ne sont pas adéquats pour un système d'éducation. Et pourtant, on se retrouve à avoir à l'appliquer dans un contexte qui est totalement inapproprié. Puis, ce n'est pas parce qu'on est contre un code d'éthique. Hein. On est dans un milieu professionnel. Un code d'éthique, on trouve ça tout à fait normal.
Ouais.
Mais ça aurait été le minimum qu'ils prennent le temps de nous consulter, qu'ils prennent le temps d'ajuster certains de leurs textes pour s'assurer que ce soit conforme à ce qui est un système d'éducation, c'est-à-dire un système qui est humanisant, qui permet à des gens, à des êtres humains de se côtoyer, de tomber en relation de façon appropriée, dans un contexte approprié. C'est malheureux que ce gouvernement-là n'ait pas plus d'écoute envers le personnel scolaire.
Puis Richard, ce gouvernement-là, quand il est arrivé au pouvoir, aurait dû apprendre de ce qu'on a vécu avec les libéraux, parce que ça n'a pas été plus facile.
On est en train de répéter.
Hein, on est en train de répéter. Tu sais, donc, on a comme l'impression que, on n'apprend pas d'année en année. Moi, je le dis, ce gouvernement-là se devra d'avoir du courage.
Bien.
Et est-ce qu'il y aura un prochain gouvernement? Il y en aura un.
Ben, il y en aura probablement un.
Quelle partie il sera? J'ai bien hâte de sentir que l'éducation va devenir une priorité et l'engagement de prioriser l'ensemble du réseau pour tout le monde,
Bien,
il va falloir que ce soit dans la plateforme et un engagement clair, ferme.
Et pas seulement l'éducation est ma priorité.
Non.
Puis après ça, prendre des décisions à la pièce, comment, sans consulter.
Répondre à l'actualité politique.
Exact.
Hein?
Non. Si l'éducation est une réelle priorité, bien, faisons ça correctement.
Oui, tout à fait.
Discutons de la suite des choses pour notre réseau de l'éducation sérieusement. Trouvons les solutions. On les connaît, les solutions.
Oui, on est rendu à l'étape de faire une grande réflexion. On en a parlé, hein? On s'est fixé un idéal il y a 60 ans maintenant, à peu près, là. Okay? On s'est fixé un idéal de soutenir l'ensemble des enfants du Québec, leur donner des chances de réussir. Je pense qu'on a besoin de renouveler notre vision de l'éducation. Tu l'as mentionné, le projet de prendre le temps de faire une grande réflexion. Depuis, pas une grande réflexion, juste le soutien, les professionnels, les enseignants. Les parents, on veut les directions, on veut les administrateurs, on veut que l'ensemble du Québec s'implique dans une grande réflexion. Puis si on se dit qu'on veut que le Québec soit plus fort, il va falloir qu'on soit prêt à investir en éducation, à soutenir le système, à bien définir son rôle, sa mission, puis être capable d'offrir à nos enfants du Québec un vrai soutien.
Ça va commencer par un gouvernement qui va valoriser tous les gens du réseau de l'éducation.
Ouais.
Et ça, là, ça va être important. Tout le monde.
Mm-hmm.
Okay? Pour que ces gens-là se sentent inclusif, se sentent à part entière dans l'éducation. Je pense que c'est une obligation. C'est une obligation pour se rendre plus loin. Puis la grande réflexion, tu l'as dit, plusieurs acteurs, l'éducation maintenant, c'est beaucoup plus large.
Oui.
Tu sais, là, il y a beaucoup plus de gens et l'écoute va être obligatoire. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il va falloir y travailler.
Surtout nécessaire.
Nécessaire.
On veut avoir les meilleures solutions, mais il faut prendre le temps d'écouter avant de prendre des décisions.
Et on a quand même de l'expertise. Je vais dire ça comme ça.
Oui.
Je suis en train de nous vanter, mais c'est quand même notre... Je veux vous parler. On achève. Le temps file. Solidarité syndicale et message commun. Tu sais, l'importance de la solidarité entre nos fédérations.
Mm-hmm. Oui.
C'est, dans le contexte actuel, c'est plus qu'essentiel, selon vous, Caroline?
Bien, pour moi, ça m'apparaît fondamental, ne serait-ce que parce que nos membres, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, sur le terrain.
Oui.
C'est leur réalité. Moi, mes pros, là, travailler avec des enseignants, travailler avec du personnel de soutien, pour eux, ça va de soi. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on doit travailler en éducation. Mm-hmm. Fait que moi, je les prends au mot, puis je me dis, c'est ma responsabilité aussi, comme représentante, de dire, on a tout intérêt à travailler ensemble, à se parler, à se comprendre, à trouver des solutions ensemble, les mettre de l'avant, s'entraider, comme nos membres le font au quotidien dans notre vie. Pour moi, ça va de soi.
Ouais. Comme tu le dis, on vit la même réalité qu'eux. Puis, ce qui est intéressant d'être dans la même centrale, c'est qu'on peut, premièrement, échanger, parce que on a du plaisir à travailler ensemble. Ça, je pense que ça doit paraître quand même. On a du plaisir à travailler ensemble. mais il y a parfois des enjeux que l'on doit discuter, sur lesquels on doit échanger avec nos collègues vivent, qui ne sont pas toujours faciles à régler. Nos collègues, ils le savent, là, sur le terrain, ça arrive qu'il y a des enjeux, des différends qui sont difficiles à régler. Bien, on peut s'en parler. On peut s'en parler, on peut échanger, on peut prendre le temps.
Oui.
Et en plus, on n'est pas dans un contexte concurrentiel.
Non, effectivement.
On n'essaie pas, on n'est pas en concurrence avec une autre organisation. Alors, on a même le droit d'échanger, on a le droit de se tromper, de surprendre, puis de trouver la meilleure solution pour nos collègues sur le terrain. Ouais. Alors, ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental, qui est intéressant, puis qui permet de développer des projets. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aide à la classe.
Oui.
Ben, exactement, les projets d'aide à la classe, ça s'est bien développé parce qu'on était capable d'échanger sur les enjeux que le personnel de soutien pourrait vivre avec les enseignants dans la classe. Est-ce qu'il y en a des enjeux aujourd'hui entre les aides de la classe et les enseignants? Sûrement, mais on est sûrement plus capable de les régler quand on est capable de se parler et de trouver des solutions.
Je pense qu'on réussit quand même à apporter des solutions rapidement sur une situation. Et ça, bien, je pense que ça ne fait pas toujours l'affaire de nos gouvernements. Tu sais, que notre réseau scolaire est fort et solide. Et tu sais, parce que la pénurie, là, tu sais, je reviens à la pénurie. La pénurie, elle touche toutes les catégories de personnel. Mm-hmm. Ça, malheureusement, bien, les solutions en éducation, elles doivent être collectives. Ça, on ne doit absolument pas fragmenter. Tu sais, là, qu'on coupe le personnel de soutien, qu'on augmente les enseignants, qu'on ne touche pas aux professionnels, mais l'année d'après, on baisse les professionnels, on fait le contraire, puis là, à un moment donné, on se ramasse des équipes. Ça prend de la stabilité, ça prend des équipes complètes, stables, entre autres, pour, dans notre travail au quotidien, c'est essentiel. Puis, moi, j'ai envie de dire que la solidarité, ça garantit quand même un filet de services cohérent.
Oui.
Et ça, là, c'est un incontournable. Il faut que ça se passe de cette façon-là. Puis, les actions concertées, bien, moi, je le dis toujours, ça renforce la capacité de résister aux compressions pour aux choix budgétaires qui sont nuisibles. Puis la force de notre expertise doit être écoutée parce que de plus en plus, on a régulièrement la population derrière nous parce qu'ils comprennent de plus en plus ce qu'on fait.
Mm-hmm.
On a aussi les, tu sais, je dis la population, mais les parents.
Mm-hmm.
Hein? Puis les différents acteurs qui gravitent autour de l'école, je pense que ça, c'est...
Mais on l'a vu dernièrement, hein, le gouvernement a essayé d'antagoniser les syndicats, les méchants syndicats, hein, comment on en entend parler. Et pourtant, quand les méchants syndicats, là, ils décident qu'ils défendent les services publics, qu'ils défendent les services à la population, bien, la population est au rendez-vous. Alors, les syndicats, c'est un outil, c'est un moyen, c'est un véhicule pour être capable de soutenir des valeurs qu'on a dans la société québécoise. On a parlé des valeurs de la société québécoise. Parmi ces valeurs-là, là, d'avoir une éducation forte, c'est important. Pendant la dernière négociation, après qu'il y ait eu des mouvements de grève importants, un peu avant le temps des fêtes, on était encore avec un appui de la population. Le 57% de la population a fait nous appuyer encore. Puis les parents, on était à 63%.
Oui.
On vient de faire des grèves parce qu'on tient absolument à améliorer la situation dans nos écoles. Puis les parents nous appuient encore. Alors, je pense que quand on a une cause, quand on la soutient, puis quand les gens prennent le temps d'écouter ce qu'on défend, là, ils sont derrière nous puis ils nous appuient. Est-ce que tout est parfait dans le monde syndical? Non. Mais on pousse fort pour soutenir les valeurs québécoises. Puis ça, je pense que la population, quand on est devant des enjeux, elle est capable de le reconnaître. Malheureusement, on a un gouvernement qui nous antagonise avec la population, qui essaie de nous faire passer pour des gens qui réagissent mal à des situations de développement progressiste dans notre société. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui pousse par en avant pour que ça avance cette société-là,
qu'on
soit capable de toujours pousser, parce qu'on commence pas à défiler toutes les l'équité salariale, tous les enjeux qu'on a fait progresser dans notre société. Mais il y a des enjeux qui sont importants encore dans notre société. Les syndicats, ils sont au rendez-vous pour être capables de faire progresser la société.
Et la force d'un réseau scolaire, la force de la CSQ, c'est que on développe nos argumentaires. On est capable de travailler en fonction d'amener des arguments qui sont de taille, des arguments que la population comprend, que les parents comprennent. Donc, ça, là, c'est une force incroyable qu'on a et ça nous appartient quand même à nous. Donc, c'est difficile un peu des fois quand on ne se sent pas écouté. Tu sais, que dans le fond, nos argumentaires sont bien bâtis, sont bien balancés, travaillent sans réseau, on y met une pression politique. Mais force est d'admettre que l'écoute, à l'époque, il y avait sur le bulletin, il y avait le savoir écouter. Je ne sais pas quelle note qu'on donnera, mais le D n'était pas nécessairement, le E n'était pas nécessairement à l'époque la lettre. Ouais. Mais bon, donc, écoutez, mot de la fin, je vous donne ça rapidement, OK? Dites-moi qu'est-ce qui vous donne encore l'espoir quant à l'avenir de l'éducation au Québec? Qu'est-ce qui vous donne l'espoir?
On a sondé la population.
Oui.
Les Québécoises et les Québécois, 90%
oui.
nous disent que d'investir en éducation, c'est améliorer le Québec de demain. Oui. Alors, je pense que ça me donne confiance que les Québécoises et les Québécois, on va survivre de bord, on va être capable de soutenir notre réseau d'éducation malgré les tempêtes qui passent, malgré les difficultés budgétaires, puis qu'on va réussir à donner un service de grande qualité parce que nos enfants en ont besoin pour s'épanouir.
C'est vrai.
Pour moi, l'espoir que j'ai pour l'avenir de l'éducation au Québec, c'est directement relié aux élèves,
oui.
aux jeunes. C'est nos citoyens de demain. On a la prochaine première ministre, premier ministre du Québec à quelque part, sur nos bancs d'école, dans nos classes. Les médecins, les infirmières, les mécaniciens, tous les gens qui auront une importance significative pour le Québec de demain, ils sont dans nos classes en ce moment. Sont là. Puis on a toute l'expertise nécessaire pour leur permettre de se développer, de faire une différence.
Oui.
Donc, pour moi, c'est les humains qui font le réseau qui me donnent espoir, les élèves, celles et ceux qui font l'école, là, le soutien, les pros, les enseignants, les directions. C'est en travaillant ensemble, puis c'est quand on voit du travail d'équipe, puis la passion des gens qu'on a sur le terrain, on va rencontrer nos membres, voilà. Puis on se dit, ces gens-là, ils font des merveilles avec rien en ce moment. Qu'est-ce qu'ils seraient capables de faire avec des moyens qui ont du bon sens?
Effectivement.
Donc, moi, c'est ça l'espoir que j'ai pour
la fin de vie. Puis moi, l'espoir que j'ai, c'est, tu sais, malgré toutes les difficultés qu'on vit, tu sais, là, puis les situations qui ne sont pas faciles, l'ensemble des gens qu'on représente, tu sais, continuent de se mobiliser. Pourquoi? Pour les élèves. Pour qui? Pour les élèves. Pour qui aussi les parents? Dans le fond, on a tous cette même profonde conviction-là qu'on veut que ça change l'éducation pour le mieux. L'espoir, c'est des équipes écoles qui s'entraident et des équipes écoles complètes. Pour moi, ce sont tous des gens, mais aussi le secteur administratif. C'est une grande équipe. Puis de continuer à avoir cette belle, comme tu dis, on va voir nos membres sur le terrain, puis cette culture de solidarité et de débrouillardise. Ces gens-là, je leur lève mon chapeau. C'est des gens extraordinaires. Les gens qu'on représente, c'est des gens extraordinaires dans le milieu, au quotidien. C'est des gens qui travaillent très fort. Et moi, je suis bien fier de les représenter, de continuer, tout comme vous, à pousser davantage pour ces gens-là. Je pense que c'est important. Donc, tu sais, au bout de la ligne, ça se termine. On a eu un peu plus de temps. Hein? J'étais le gardien du temps, mais il faut croire que je n'ai pas gardé beaucoup. J'aurais besoin de la fameuse horloge en
attendant.
J'ai envie de vous remercier, Caroline Pierre-Richard. Honnêtement, ça fait une belle rencontre. Ça fait une belle rencontre parce que la continuité du travail qu'on va y mettre, de l'ardeur, de la collaboration, je pense que c'est essentiel. La part de nos solutions ensemble pour nous, dans le respect, dans l'expertise. Tu sais, on le dit souvent entre nous, tu sais, je vais le dire en dehors des ondes, ça se peut qu'à un moment donné, on ne soit pas nécessairement arrimé dans certains dossiers. Mais au bout de la ligne, si on se parle, si on communique ensemble, je pense qu'on va être l'équipe complète, la grande équipe école, tu sais, des représentants, dans le fond. Et effectivement, réseau scolaire est une force, je l'ai dit tantôt, en éducation. Oui, des états généraux en éducation. Et honnêtement, je tiens à vous dire merci encore une fois. Puis au plaisir d'une prochaine fois, on aura sûrement autre chose à jaser ensemble. Les défis restent très grands en éducation. Mais merci à tous ceux qui la bâtissent à tous les jours. au quotidien, c'est des gens exceptionnels. Merci, Caroline. Merci, Richard, beaucoup.
Merci, Éric.
Merci, Éric. Merci, Caroline. Puis nos collègues méritent qu'on travaille fort pour eux.
Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci.